Le journal Loïc Barrière. En Turquie, des dizaines de personnes arrêtées après l'attentat de dimanche à Istanbul. Selon Ankara, la poseuse de bombes est de nationalité syrienne. Les autorités accusent le PKK. Emmanuel Macron se dit favorable à des sanctions ciblées contre des personnalités du régime iranien, responsables de la répression des manifestations. Un accord entre Paris et Londres sur la traversée des migrants qui tentent de rejoindre le Royaume-Uni. La France va augmenter ses effectifs policiers de 40% pour effectuer des contrôles. Dans ce journal, nous ferons le point sur le projet de loi sur l'immigration qui sera discuté début 2023 avec Pierre-Henri, président de l'association France Fraternité. Enfin, la 34e édition du festival Africolor commence cette semaine. Des dizaines d'artistes vont se produire dans toute l'Île-de-France jusqu'au 24 décembre. Au lendemain de l'attentat d'Istanbul, des dizaines de personnes ont été arrêtées, notamment la personne qui a posé la bombe. Il s'agit d'une femme de nationalité syrienne. Selon Ankara, elle a reconnu avoir agi sur ordre du Parti des travailleurs du Kurdistan. Elle affirme avoir reçu des directives en ce sens à Kobané, dans le nord-est de la Syrie. Dimanche soir, le président Erdogan a promis que les auteurs de l'attentat seraient punis. L'attentat a fait 6 morts et 80 blessés. Les Kurdes syriens, soutenus par les États-Unis, démentent toute responsabilité dans cette attaque. La justice iranienne a récemment inculpé 800 personnes pour avoir participé à des émeutes dans plusieurs régions. Un juge a par ailleurs prononcé la première condamnation à mort liée à ces manifestations. Emmanuel Macron a rendu hommage au courage des femmes iraniennes. Le président français s'est dit favorable aussi à des sanctions ciblées visant des personnalités du régime qui ont une responsabilité dans la répression des manifestations. Une Palestinienne tuée par des tirs israéliens, âgée de 19 ans, elle a été touchée d'une balle à la tête lors d'un raid de l'armée israélienne à Betounia, près de Ramallah, en Cisjordanie occupée. Le projet de loi immigration sera débattu au début de l'année prochaine. Son contenu a été partiellement annoncé. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, veulent créer un titre de séjour métier en tension pour les travailleurs sans papier déjà en France, à côté de mesures visant à améliorer les reconduites à la frontière. Entretien avec Pierre-Henri, président de France Fraternité, ex-directeur général de France Terre d'Asile.
Les projets de loi sur l'immigration, c'est un peu le marronnier des politiques. Je veux dire par là que tous les deux ans, on présente une loi sur l'asile, l'immigration, et on la présente comme absolument indispensable au bonheur et à l'équilibre de la nation. Ce qui donne un droit des étrangers tout à fait illisible, abscons, complexe et des polémiques sans fin. J'ai bien entendu la proposition qui est faite par le gouvernement. Il est vrai qu'il y a des métiers en tension qui n'arrivent pas à trouver preneur parce que ces métiers sont difficiles, avec des horaires décalés, sont souvent très mal payés. Et il est vrai aussi qu'un certain nombre de personnes étrangères, parfois en situation irrégulière, va occuper ces fonctions. C'est vrai, par exemple, dans la restauration, dans le ménage, dans le bâtiment, dans les métiers de l'agriculture, de la récolte. Et donc, sur le principe, dire on va créer un titre de séjour métier en tension, pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais le problème, c'est que en matière d'immigration, le détail, le diable se cache dans les détails, et que pour l'instant, nous ne savons rien de ce titre de séjour. Est-ce que c'est un titre qui est renouvelable ? Est-ce que c'est un titre qui permettra le regroupement familial, parce que c'est bien beau de faire des titres de séjour travailleurs, en fait, métier sous tension, mais ces personnes ont aussi le droit de vivre en famille. Donc, est-ce que ça leur permettra, y compris le cas échéant, de le faire? Est-ce que, oui, c'est renouvelable? Quelle durée? Est-ce que ça débouche sur un titre long séjour? Écoutez, pour l'instant, on est un peu dans le flou et on est dans la stratégie habituelle du gouvernement sur ces questions. Évidemment, dès que vous parlez de titre de séjour, le Rassemblement national, une partie des droites, crie au scandale, à la régularisation des sans-papiers. À l'inverse, s'il y a des mesures coercitives extrêmement dures, c'est plutôt la gauche de la gauche qui va hurler. Mais au final, ça ne fait pas forcément un projet équilibré.
Ce futur projet de loi qui doit introduire une série de mesures pour rendre les obligations de quitter le territoire français plus efficaces. Et le gouvernement dit vouloir notamment inscrire les immigrés menacés d'expulsion au fichier des personnes recherchées. Est-ce réalisable et serait-ce efficace?
Le problème, c'est qu'une fois de plus, on pose la question des OQTF de la mauvaise manière. Les OQTF en France sont abondantes. C'est un acte administratif banal pratiqué par les préfectures. Vous avez moindre problème avec un document de séjour. Allez, boum, une OQTF. On vérifie pas les conditions dans lesquelles vous vivez. Et du coup, nous avons en France l'habitude de distribuer deux fois plus d'OQTF que notre voisin allemand, qui au passage reçoit plus de personnes étrangères que nous. Et donc, il y a un petit sujet là. Et le sujet, il est tout simplement que nos partenaires allemands, eux, regardent d'abord si la personne peut éventuellement avoir un accès au séjour, celui à un quelconque titre, que la raison pour laquelle on lui a donné une OQTF. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle nos partenaires allemands ont un taux d'exécution des OQTF beaucoup plus élevé que le nôtre. Donc si on commençait par prendre le sujet avec réalisme, pragmatisme, peut-être que le débat serait plus sain.
La France, qui a toujours été l'un des premiers pays de l'Union européenne à émettre le plus d'OQTF, d'obligation de quitter le territoire français, mais c'était également l'un des pays qui est le moins efficace.
Ça va ensemble, parce que le débat autour de l'immigration et de l'asile est terriblement instrumentalisé. Et donc, et de toutes parts, les étrangers sont les boucs émissaires commodes pour un certain nombre de politiques. Suivez mon regard à la droite de la droite et à l'extrême droite, mais également pour d'autres formations qui utilisent cette question pour parfois prendre un certain nombre de postures. Donc c'est le sujet. Donc les OQTF, soyons clairs, qu'il y ait un certain nombre de personnes qui représentent une menace actuelle établie pour l'ordre public, qui sont des délinquants ou des criminels, qu'ils soient éloignés du territoire, franchement, personne ne s'en plaindra. Mais diable, pourquoi à partir de là faire un amalgame de toutes ces situations? Nous connaissons tous autour de nous des personnes qui ont eu leur OQTF, qui travaillent, qui ensuite ont été régularisées ou qui reçoivent des OQTF avec un pays de retour qui n'est pas le leur, etc., ce qui montre qu'en fait on est dans le copier-coller dans la délivrance des OQTF dans les préfectures. Donc, encore une fois, abordons ce débat avec pragmatisme et puis le pays ira peut-être sur la voie de l'apaisement. Mais hélas, nous n'en prenons pas le chemin.
Et vous soulignez qu'il est possible de recevoir une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, puis d'être ensuite régularisé.
Oui, bien sûr, y compris pour des personnes qui bossent, qui travaillent depuis des années et qui se voient délivrer une QTF parce qu'ils ont dépassé des délais, ils ne se sont pas présentés, etc., parce que leur dossier a été égaré, parce que parfois ils ont été négligents eux-mêmes. Mais bien sûr que des EQTF peuvent être levées et certaines le sont, mais c'est un vrai chemin de croix. Et donc, je dis qu'avant de faire des effets de tribune ou de montrer les muscles, le débat sur l'immigration devrait d'abord se situer dans une perspective d'apaisement et de pragmatisme.
Le fait d'inscrire ces personnes au fichier des personnes recherchées, il s'agirait selon vous de criminaliser ces personnes, c'est ce que vous craignez ?
À faire cela et de manière généralisée, on va vers de grands drames, hein, je vous le dis. Parce que forcément, dès lors que vous êtes dans des pratiques massives, immanquablement, vous faites des erreurs et il y aura des drames qui se produiront. Donc le débat autour de l'immigration est d'abord un débat humain. Il est normal qu'un État puisse dire qui il reçoit, comment on se maintient sur un territoire. Mais je crois qu'il faut se garder de toute déclaration à l'emporte-pièce là-dessus, parce que les politiques publiques, c'est une des politiques publiques les plus difficiles à mettre en œuvre, tout simplement parce qu'elle se heurte à la volonté des individus de se dessiner une vie, un espoir, etc. Donc le législateur peut toujours bien raconter ce qu'il veut. Souvent, il en fait des tonnes. L'administration ne peut pas suivre parce qu'elle n'a pas les moyens. Ça donne un droit absolument complexe et illisible. Donc, voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et vous savez, ça fait quand même 25 ans que je travaille sur cette question.
Pierre Henry, président de France Fraternité, ex-directeur général de France Terre d'Asile, il répondait à François-Xavier de Calonne. Joe Biden et Xi Jinping se sont rencontrés en marge du G20 lors de leur premier tête-à-tête à Bali. Le président américain a dit vouloir éviter que la compétition se transforme en conflit et son homologue chinois a prôné un dialogue sincère. En France, 95% des biologistes libéraux étaient en grève ce lundi. Ils dénoncent les économies prévues par le budget de la sécurité sociale. La grève devrait durer jusqu'à mercredi. Les urgences sont cependant assurées pour les personnes atteintes de cancer, pour celles qui doivent se faire opérer ou celles qui sont sous dialyse. Enfin, c'est un festival qui se déroule dans une vingtaine de lieux en Île-de-France, le festival Africolor de Bobigny à Goussainville. Ces villes accueilleront de nombreux artistes liés à l'Afrique, comme le chanteur kabyle Ali Amran. Je vous propose d'écouter Sébastien Lagrave, directeur et programmateur d'Africolor.
C'est un festival qui existe depuis 1989, qui est né à Saint-Denis, donc en Seine-Saint-Denis, et petit à petit est devenu un festival départemental, puis régional. Et l'idée, c'est de travailler avec les 24 et maintenant 27 lieux partenaires du festival à des programmations d'artistes émergents, parfois totalement inconnus du grand public et parfois un peu des stars dans les pays d'origine du continent. Effectivement, c'est des programmations qui sont pensées avec tout le monde, parfois un an et demi, deux ans à l'avance, oui.
Alors, ce sont des programmations qui sont pensées longtemps à l'avance, et puis, pour les artistes, parfois, ce sont des spectacles conçus spécialement pour le festival.
Oui, oui, oui. Et par exemple, avec Ali Amran, on s'est parlé l'an dernier, et il m'a fait part de ce projet de travailler à revisiter le répertoire de Cheikh El Asnaoui. Mais il nous a fait l'amitié de faire la toute première pour Africolor. Donc c'est parfois des cadeaux que nous font les artistes, oui.
Qu'est-ce qui relie ces différents artistes entre eux ?
Alors, je crois que l'idée d'Africolor, c'est de programmer des artistes qui, chaque année, écrivent à leur façon, à leurs endroits, une nouvelle page de l'histoire des musiques africaines, telle qu'ils la conçoivent eux. C'est pas à moi de leur dire ce que sont les musiques africaines, mais dans ce qu'ils font, dans les rythmes, dans les paroles, dans aussi parfois leur engagement citoyen, notamment dans les musiques urbaines, eh bien ils apportent une pierre nouvelle à cette histoire, qui est notre histoire aussi, et ils partagent ça avec nous, justement.
Alors, ce sont des artistes qui souvent se produisent dans des pays étrangers et dans des salles à Paris. Le fait que ces concerts aient lieu là où vivent les Franciliens, ça apporte une dimension supplémentaire ?
Je crois que c'est très très important. Nous, c'est un des objectifs du festival, hein, de donner une visibilité à ce qu'on appellerait maintenant cette part d'africanité de notre pays. C'est très important de donner cette visibilité en Île-de-France. Et ça veut dire que faire partager au grand public cette richesse des musiques du continent, qui font partie de l'histoire universelle de la musique, et aussi ce que vivent, ce qu'ont vécu ceux qui sont arrivés ici dans les années 60, leurs enfants, leurs petits-enfants, ce qu'ils écoutent, et puis ce qu'écoute le grand public parfois, sans savoir que tel ou tel artiste est venu de tel ou tel pays. Je prends un exemple, cette star désormais mondiale qui est Aya Nakamura, dont les parents sont venus du Mali, notamment.
Pour les habitants de la région Île-de-France, c'est l'occasion aussi de découvrir des artistes en famille. Il y a toutes les générations qui viennent à ces concerts.
Ouais, complètement. On a effectivement des spectacles jeunes publics, je pense notamment à Stein. On a des spectacles dans des grandes salles très renommées, comme la Maison de la Culture de Bobigny, qui sont des salles assises avec un spectacle complètement familial, qui peut être celui de Fatoumata Diawara, notamment, qui est une artiste pour toutes les générations. Et puis, on a des spectacles qui peuvent être plus debout, plus pour les jeunes. Je pense à un rappeur très connu au Sénégal, qui est Samba Petit. Donc, on a un éventail de programmation qui concerne, j'allais dire, toutes les musiques et tous les âges.
Que vous disent ces artistes après ce festival ? Car effectivement, la rencontre avec le public est très importante.
Ben, en général, ils nous disent que c'était très important pour eux, cette première scène, pour certains, en Europe et en France. Ça leur permet, pour certains, d'enclencher un vrai partenariat et des vrais parcours de tournée en Europe et parfois de tournée mondiale. Hein. Il y a eu des révélations qui se sont faites à travers le festival. Et donc, ils sont très conscients que nous, on est une sorte de marchepied. On est là pour mettre le pied à l'étrier à ces artistes, que le grand public ici puisse s'ouvrir à leurs propositions.
Sébastien Lagrave, directeur et programmateur d'Africolor. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Anas Kazib, cheminot et syndicaliste Sudrail, porte-parole de Révolution Permanente. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.